santé, quels enjeux pour nos entreprises? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 23 mai 2024.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau colloque éthique avec ce thème santé, quels enjeux pour nos entreprises pendant ces 2h30, 3h de direct pratiquement. Nous sommes ravis de vous accompagner, on va se poser la question de ce qui a changé dans nos entreprises, peut-être depuis la crise sanitaire. Est-ce que les Français, les salariés, nos collaborateurs sont plus ou moins bien dans leur basket, ce qu'ils sont bien en, comment ils sont soignés, quelles sont les pathologies peut-être nouvelles qui apparaissent. C'est ce qu'on va voir durant cette matinée, à l'initiative bien évidemment de ce colloque éthique. La présidente est là, la présidente du mouvement éthique, Sophie de Menton. Bonjour.
Bonjour.
Notre invité, je vous laisse le présenter, votre invité pour cette introduction, c'est Patrick Hérard.
Alors Patrick Hérard, bonjour docteur, merci infiniment d'être là. En fait, je vais le laisser se présenter lui parce qu'il a tellement de casquettes, entre autres celle d'urgentiste bénévole à l'hôpital Georges Pompidou le mercredi, donc essayez d'avoir une urgence le mercredi, et le reste bien sûr, je vous laisse vous présenter.
Oui, c'est très gentil, merci Sophie. Mais écoutez, je suis donc médecin de formation, j'ai été praticien hospitalier, mais je suis ensuite rentré dans l'industrie du médicament, j'ai dirigé le groupe Astellas, que j'ai d'ailleurs créé en France pendant 25 ans, j'ai été président du LEM pendant 5 ans, et puis je suis également,
il faut le spécifier.
C'est le syndicat de l'industrie du médicament,
voilà,
c'est ce qui regroupe l'ensemble des industries du médicament en France, et je suis également philosophe de formation, ce qui fait que je suis à mes heures perdues auteur, et je m'occupe beaucoup de questions de santé, je dirais presque philosophique, dans l'existence et dans le monde du travail, évidemment, où j'ai appliqué un certain nombre de préceptes dans le management que j'ai eu la chance d'opérer pendant ces années. Et donc, je commets de temps en temps quelques conférences sur ce sujet.
Voilà. Est-ce qu'il nous vaut également cet ouvrage, Travailler heureux, philosophie du bonheur au travail. On va en parler dans quelques instants. Patrick Hérard,
par rapport à ça. Oui, justement, oui. Parce que vraiment, c'est un bonheur de vous avoir parce que c'est exactement le champ qu'on a envie de couvrir ce matin. Parce que oui, vous posiez la question, est-ce que le rapport au travail a changé? Depuis quand, etc. Il a terriblement changé. Il a changé, je pense que c'est pas moi d'analyser, quoique j'ai un poste d'observation effectivement de milliers d'entreprises, donc c'est important, et les chefs d'entreprise disent tous à peu près la même chose. D'abord, le premier point, ce matin, dans l'opinion, le titre « Système de santé, les Français appellent les entreprises à s'engager ». Premier point, on en traitera, on nous demande de plus en plus de choses, que nous faisons d'ailleurs avec plaisir pour nos salariés, parce qu'un salarié heureux, c'est une entreprise qui prospère. Mais c'est vrai que la demande est telle qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver. La demande est telle, et tout cela face à des salariés... Alors, j'ai une chance folle, les miens sont terriblement motivés. À éthique, c'est extraordinaire, et beaucoup d'entreprises autour de nous, mais... le télétravail est devenu un must. Vous recrutez, on vous dit combien de jours de télétravail. Donc ça veut dire une absence de l'entreprise, et le philosophe que vous êtes nous expliquera peut-être pourquoi. Absence de l'entreprise alors que pourtant il l'aime. J'ai lancé J'aime ma boîte, la fête des entreprises, il y a 22 ans, et c'est toujours vrai. Donc ils veulent en partir, ils veulent y être, parce que quand ils en sont partis, ils sont pas bien. Et ils pensent, pardon, je suis un peu, vous me connaissez, ils pensent que tout leur est dû. Absolument tout leur est dû. On doit les aider, ils sont assistés. Et je crois que c'est pas seulement... Alors évidemment, c'est un phénomène un peu universel, mais je pense que la France, l'état nounou a été tel qu'ils veulent être pris en charge partout. Que ce soit pour leur retraite, leur maladie, leurs règles douloureuses... excusez-moi, là j'ai mal vécu le congé règles douloureuses, en dehors des maladies.
Pourquoi c'est pas bien?
Comment c'est pas bien? Et je sais pas, il y a un congé prostate aussi, c'est n'importe quoi. Nous gérons, chefs d'entreprise, le nombre de fois où dans ma vie j'ai eu une jeune femme qui venait dans mon bureau et qui disait, oulala, je repars, ça va pas, c'est évident.
On n'avait pas besoin de faire un congé spécifique.
Un congé. Alors, excusez-moi, qui n'aura pas de règles douloureuses? Parce que pour prendre une journée chez soi, ça me paraît...
Vous pensez qu'il y aura des abus ?
Il y a forcément, sinon des abus, du moins l'utilisation de ce qu'on leur donne comme possibilité.
Ça sera plus compliqué pour l'autre moitié de la population, ouais. Évidemment. Patrick, alors on vous fait réagir. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas terminé votre biographie actuelle, puisque plus de ces nombreuses activités, vous arrivez à publier des bouquins. Et puis récemment, peut-être que vous aviez envie de renouer avec le terrain. Expliquez-nous.
Voilà, donc je dirige une société de conseil pour des startups dans le domaine de la santé. Et puis, effectivement, je suis...
Il s'appelle comment ?
EBS.
EBS.
Evidence-Based Strategy, voilà.
En anglais, évidemment.
Voilà. Et ben oui, c'est... Les biotechs sont souvent pas seulement françaises. Et puis, je fais les mercredis aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Mais je voudrais peut-être rentrer dans le sujet, si vous me permettez, puisque nous avons un temps limité. Je crois qu'il est important de pouvoir contextualiser ce que vous avez choisi comme sujet. Je voudrais faire deux remarques et rebondir ce que vous disiez, madame, sur le sujet de la santé. Je crois que... Il faut peut-être contextualiser la question du santé au travail, la santé au travail. Je suis pas un fan de ce néologisme parce que je pense pas qu'il y ait de santé au travail. Il y a une santé, il y a un capital santé qui s'exprime dans le travail comme ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a une santé spécifique au travail? Oui, c'est évident que pour celui qui porte des charges lourdes, celui qui est maçon, qui est charpentier ou qui fait du travail de nuit, il y a des facteurs de risque. Mais ils rentrent dans ce qu'on appelle des déterminants de santé. Pour faire très schématique et très simple, nous avons pour gérer notre capital santé trois types de déterminants. Nous avons des déterminants de santé médicaux, qui sont en fait les déterminants de santé génétiques, le risque de faire telle ou telle maladie pour des raisons un peu de patrimoine familial ou génétique. Donc c'est l'exposition à un certain nombre de risques liés à notre histoire familiale et nos gènes. Nous avons des déterminants de santé non médicaux qui sont de deux types. Les déterminants de santé non médicaux comportementaux et les déterminants de santé non médicaux qui sont liés à l'environnement. Chacun de ces trois pèse pour à peu près un tiers dans notre capital santé. Dans les déterminants de santé comportementaux, vous avez ceux qui sont liés à l'exposition à certains risques, notamment addictifs, l'alcool, le tabac.
On va en parler d'ailleurs dans la première tableau.
Des risques...
Le travail, j'en connais.
Le risque est un comportement parmi d'autres. Ça n'est pas c'est loin d'être un déterminant à lui tout seul. Vous avez l'exposition à des risques qui sont liés à la pratique de certains sports, par exemple, ou de certaines activités dangereuses. Et puis, vous avez le travail qui peut être un élément comportemental, mais qui ne pèse pas un tiers à lui tout seul. Il pèse une fraction de ce tiers.
D'accord.
Donc, quand on met déjà la question de la santé au travail avec tout ce que l'on déploie comme élément autour de ça... Pour ma part, j'ose dire qu'on met une emphase un peu excessive sur quelque chose qui ne pèse pas si lourd que ça dans notre capital santé.
Vous dites donc que ce n'est pas le travail qui va déclencher une pathologie.
Et puis vous avez un tiers qui sont des déterminants de santé non médicaux qui sont liés à l'environnement. Pollution de l'air, pollution, exposition à des pesticides, etc. Donc vous voyez qu'au total, ce qui risque de vous arriver en termes d'événements de santé est lié à des facteurs multiples, dont le travail est une expression dans les déterminants de santé non médicaux comportementaux, mais il ne représente pas à lui tout seul un tiers des risques.
Mais je vous coupe parce que je suis évidemment d'accord, on a l'impression de voir des tableaux du 19e siècle avec des ouvriers battus, mais on nous bassine, nous chefs d'entreprise, du burn-out, de l'épuisement au travail. Psychologiquement, est-ce que vous ressentez quelque chose?
Oui, ça rebondit sur la deuxième partie de mon propos qui était de réagir par rapport à ce que vous disiez. C'est que le rapport au travail a changé. Et c'est ce rapport au travail qui a changé qui fait que aujourd'hui, le travail est revenu dans la case labeur. Il n'est plus dans la case sacrée. C'est lié à deux choses. D'abord, c'est lié à l'effondrement à la fin des années 50 des deux piliers de la sacralisation. Ces deux piliers de la sacralisation, il y en avait un qui était religieux, c'est l'effondrement du catholicisme dans les pays, notamment européens, et l'effondrement du communisme, qui était le sacré laïque. Le communisme avait comme valeur, depuis Karl Marx, avait comme valeur la productivité par l'homme, et la productivité était en soi un élément sacré qui tuait d'ailleurs la sacralisation religieuse. Mais la religion était aussi le sacré dans le travail comme il était le sacré dans la mort. La non-acceptation de la mort aujourd'hui dans notre société moderne, ce qui va d'ailleurs avec notre sujet, le refus de la mort, c'est-à-dire la santé à tout prix, vient de l'effondrement du sacré. Et ce sacré n'a pas trouvé de place dans le travail. Et, or, il en avait une avant, c'est-à-dire la raison profonde, l'exprimait Nietzsche dans le Gai Savoir, la raison profonde de notre engagement dans une œuvre personnelle et collective, le travail donc, était de mettre un peu de raison d'être dans notre propre existence, dans cette existence qui n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Naître pour mourir, ça n'a en soi aucun sens. Ça n'a de sens que parce que nous mettons de sens dans ce qui n'en a pas. Et le travail était une partie de cela, et il a un peu disparu en tant qu'élément transcendantal de la raison d'être et de l'existence. Aujourd'hui, c'est devenu plus un labeur. Et ça rebondit sur ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens le traitent comme tel. C'est-à-dire que c'est devenant de la matérialité qui ne sert à rien d'autre que produire suffisamment d'argent pour profiter et jouir de ce qui n'est pas le travail, c'est-à-dire la société des loisirs. Et donc, vous retombez sur la question des RTT, du télétravail, de est-ce que je peux m'arrêter pour ceci, est-ce que je peux m'arrêter pour cela, puisque évidemment, mon sujet n'est pas de travailler, mais mon sujet est de ne pas travailler. Et donc, cette société néo-moderniste qui a déplacé la sacralisation du travail vers un travail labeur fait rentrer, comme dans un boulevard, toutes les questions qui sont des questions, finalement, de matérialité, la santé au travail. Et ce néologisme vient bien du fait qu'on considère le travail comme rien d'autre que quelque chose de nuisible. C'est redevenu le trépalium. Hein, le mot travail vient de trépalium. C'est redevenu l'instrument.
Ça veut dire que c'est uniquement subi, ou on peut quand même, comme le dit votre petit bouquin, travailler heureux? Comment
on peut travailler heureux en donnant deux éléments fondamentaux à notre œuvre dans le travail. La première, c'est de redonner autre chose que notre simple motivation individuelle à vouloir gagner de l'argent, ce qui est légitime et nécessaire d'ailleurs pour nourrir sa famille, pour jouir de cette existence. Mais il faut aller au-delà. La motivation ne peut pas s'arrêter à la motivation individuelle. Elle doit être collective. Et c'est l'aspect transcendantal de cette motivation. C'est-à-dire, je dois faire un travail pour quelque chose qui est plus grand que moi. Une œuvre qui est plus importante que ma seule existence. Donc, il faut que les managers aussi donnent cette transcendance, cette raison d'être, qu'on retrouve d'ailleurs dans les stratégies RSE des entreprises, pour mobiliser, si je puis dire, autre chose que l'intérêt individuel et égoïste. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre dans le travail quelque chose qu'on a refusé de mettre pendant des années, qui est l'amour. Il faut que les gens aiment. On ne peut pas engager, vous parliez tout à l'heure de l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce que vous voulez engager des gens dans un désamour? C'est absolument impossible. Il faut rendre les gens
amoureux.
J'aime
ma boîte.
Il faut rendre les gens amoureux. S'il n'y a pas de sentiment amoureux, vous ne pouvez pas espérer le moindre engagement. Or, l'amour, comme c'est exprimé dans le Banquet de Platon, c'est une équation qui est très simple, c'est j'aime ce que je désire ce que je n'ai pas. Et donc, pour créer un sentiment amoureux, il faut créer du désir par rapport à une attente de quelque chose que je vais accomplir. Dans le Gai Savoir de Nietzsche, il dit ce qui est motivant, ce qui est engageant, ce qui est finalement transcendantal, c'est le génie créateur. C'est quand crée quelque chose de génial. Je dépasse ma seule condition. Si je suis dans le labeur, dans la production, et de ce point de vue-là, Nietzsche est un ennemi de Karl Marx, si je suis dans la production, je suis malheureux, puisque je n'ai pas quelque chose d'autre
que la production. Mais c'est le symbole de l'ouvrier à qui on dit « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « je construis un mur », et l'autre qui dit « je construis une cathédrale ». Mais ce que vous dites est tout à fait passionnant. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça a été illustré pour moi par un film formidable avec, je crois, Fernandel, qui était Don Camillo et Don Pepone. Et là, les valeurs communistes et catholiques donnaient du sacré au travail.
Les deux sacrés, absolument. Le communisme et la religion étaient les deux piliers sacrés.
Ça a disparu. Alors, cela dit, c'est tellement juste. Mais on demande au patron J'ai essayé, puisque je vous dis, j'ai créé, j'aime ma boîte, c'est de faire des entreprises, parce que j'avais au fond de moi l'impression, grâce à tous ceux qui ont travaillé avec moi toute ma vie, qu'ils aimaient leur boîte et qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait cet amour absolument. Mais aujourd'hui, vous demandez de motiver des gens qui sont démotivés par des forces politiques en permanence, parce qu'il faut réduire le travail, les empêcher, faire le plus possible de congés, faire une semaine en 4 jours au lieu de 5. Donc il y a cette espèce de contradiction et le fait que nous, il faut leur donner envie de revenir et d'être là. Donc on demande, vous me demandez de leur donner une motivation, un sens à leur travail. Ça dépend du boulot.
Non,
je peux poursuivre votre question. Est-ce que c'est en fait une responsabilité effectivement de l'entreprise, du chef d'entreprise, de motiver, de remettre de la transcendance finalement dans l'œuvre de son travail, ou est-ce que c'est quelque chose de personnel qu'on peut chacun
C'est un travail personnel. Ouais. Philosopher, c'est apprendre à penser par soi-même. On ne peut pas demander à l'entreprise de penser à votre place. Donc il faut que chacun fasse ce travail personnel. C'est une recherche spirituelle, laïque, personnel que de trouver du sens à sa propre existence. À l'entreprise et au manager de l'entreprise, d'accompagner ce sens existentiel par quelque chose qui est une œuvre collective, qui est un peu autre chose que de la simple production ou du profit. Et c'est là où je dis que les deux se rejoignent. Mais ce que vous dites est absolument essentiel. Vous parliez du politique. Le politique a introduit un truc qui était épouvantablement dangereux. Il a introduit dans ses éléments de langage un truc qui s'appelle la valeur travail. C'est absolument une absurdité totale. La valeur travail ne peut pas être une valeur. D'abord, je trouve que c'est très dangereux puisque c'est un retour à quelque chose qui, je vous rappelle les heures sombres, c'est travail, famille, patrie. Mmh. Hein, travail, famille, patrie, c'était une valeur, le travail était une valeur qui était promue par le péténisme, qui pensait que hisser le travail en valeur était une façon de rétablir l'ordre et de s'aligner quelque part sur l'ordre militaire et je dirais presque dictatorial. Donc c'est extrêmement dangereux d'hérisser le travail en valeur. Il faut faire en sorte que le travail soit le fruit, enfin, et comme objet, c'est-à-dire le génie, ce que encore une fois Nietzsche appelle le génie créateur. Il ne faut pas que le travail soit une valeur, il faut qu'il y ait une valeur dans ce que le travail produit, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est cette valeur-là qu'il faut apprendre aux gens à aimer. Quand je dis il faut être amoureux, il faut être amoureux de la valeur de ce que l'on fait. Le peintre doit être amoureux de ce qu'il produit lorsqu'il a fini sa peinture. Il doit provoquer aussi ce sentiment amoureux pour les autres. Le musicien, par l'harmonie de sa portée, de ses notes, doit provoquer ce sentiment amoureux. Les trois arts majeurs, l'écriture, la musique.
Oui. Et est-ce que vous êtes dans la création? Là, on est plus du domaine artistique. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple? On a vu, Sophie, les bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs sans valeur ajoutée où les gens s'aperçoivent qu'ils font des réunions, ils font des PowerPoints toute la journée, ça ne sert à rien. Et donc, ils sont déprimés par ça aussi. Est-ce qu'on peut mettre finalement de l'émotion dans tout ce qu'on fait?
Parce qu'on a introduit, alors pour différentes raisons, ça serait peut-être trop long de développer ça, mais on a introduit dans les entreprises quelque chose qui est aussi redoutable, qui est ce que j'appelle le McKinseyisme des années 2000, qui est la matricialisation des entreprises. Décoder de façon très simple, la déresponsabilisation du management. C'est la déresponsabilisation du management. Ce qui fait que maintenant...
qu'on est déresponsabilisé.
Ah ben, tout est devenu collectif, matriciel. Si vous ne pouvez plus rien décider sans faire 3 réunions, en fait, le management est devenu quelque chose qui est une espèce de plasma dans lequel vous faites passer des heures carrées à des personnes à réfléchir à des choses qui ne les concernent même plus. Ouais. Donc, évidemment que c'est ennuyeux.
On parle de l'entreprise, mais ça fait écho à l'hôpital, hein, ce que vous racontez. C'est dans toutes les organisations.
À l'hôpital, vous avez un objet qui est malade, si je puis dire. C'est pas très heureux comme formule, mais enfin, vous avez un objet au sens, un objectif, qui est le patient, qui va mobiliser votre énergie, votre attention sur un seul objectif, qui est de le sauver ou de le guérir ou de le soulager.
Et puis le soir, on sait ce qu'on a fait, pourquoi on a été là.
Après, la coordination à l'hôpital, c'est de la coordination, c'est de l'organisation des soins. Évidemment que c'est impactant, mais c'est plus tout à fait le même sujet. En entreprise, vous avez un sujet qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est de restaurer, avec une certaine urgence, ce que j'appelle le courage managérial. C'est-à-dire d'avoir le courage de décider, le courage d'arbitrer.
Dans les PME, on l'a.
Le courage d'orienter.
Dans les PME, on l'a. Vous parlez des grands groupes.
Dans les PME, c'est souvent le cas parce que, tout simplement, la structure est petite et que celui qui en est le patron, généralement, a une certaine responsabilité vis-à-vis de ses employés. Dans les grandes entreprises, celles du CAC 40 comme celles dans les grandes multinationales, je peux vous assurer que, quand je vous parlais du McKinseyisme, l'introduction de ce qu'on appelait la matricialisation des entreprises a été, de mon point de vue, très déresponsabilisante.
Une petite question. D'abord, vous avez raison, d'ailleurs, on a une formule responsable mais pas coupable. Ça a été dit par une ministre. Le responsable mais pas coupable, ça résume ce que vous dites sur le management, sur certains management. Cela dit, je voulais juste faire une toute petite parenthèse. Dieu sait si je suis pas pétiniste, mais travail, famille, patrie, c'est pas méprisable. Je suis désolée, la famille c'est une merveille, la patrie on en pense qu'on veut, elle est difficile en ce moment.
C'est pas le sujet. Est-ce que ce sont des valeurs? C'est ça là la question.
Est-ce que ce sont des valeurs?
Je suis pas sûr.
Ah bon?
Non.
Qu'est-ce que c'est qu'une valeur?
Une valeur, c'est quelque chose qui est par définition non mesurable, qui appartient à ce qu'on appelle la morale, enfin ce que les philosophes rentrent dans la morale, et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une morale dans la patrie, je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessairement une morale dans la famille, pas plus qu'il y en a dans le travail. Il y a des règles qui président à la gouvernance d'une patrie, peut-être à la construction d'une famille. Il y a une éthique, si vous voulez. Est-ce que c'est pour autant une morale au sens philosophique du terme? Et de ce point de vue-là, est-ce que c'est une valeur morale? J'en suis pas tout à fait convaincu. Enfin, les philosophes qui ont traité ces sujets en sont pas complètement convaincus non plus. Se sont érigés ça en valeur morale et de mon point de vue un peu dangereux parce que ça place une forme. Si vous voulez, c'est exactement le même danger que celui que vous avez lorsque une religion s'empare du pouvoir. C'est du même niveau. C'est dès l'instant où vous utilisez une valeur morale pour diriger la cité, comme le font un certain nombre de pays avec des religions qui sont au pouvoir, vous avez un risque quand même assez important de voir les libertés individuelles complètement étouffées par des préceptes qui sont moralistes et qui ne sont pas, de mon point de vue, modernes.
Est-ce que le travail n'est pas l'antithèse de la paresse? Alors, ça ne devient pas vraiment une valeur, mais la paresse, en tout cas, est une non-valeur.
La paresse pourrait... Je ne sais pas ce que qu'on met derrière la paresse, mais on pourrait considérer que la contemplation... au sens où les stoïciens le considèrent, c'est-à-dire admirer l'univers, le cosmos, que les stoïciens appellent le cosmos, c'est-à-dire admirer l'environnement qui est le nôtre, la nature qui est autour de nous pour ressourcer sa propre énergie, pour accepter que nous sommes une partie de ce tout et que de ce point de vue-là, nous sommes un peu immortels. Je trouve que c'est une paresse ou une oisiveté qui est assez salutaire.
Oui, puisqu'il y a même un éloge de la paresse. Hein. Je crois que c'est un petit guide philosophique d'ailleurs qui date des années 20.
La paresse en douce, c'est moins bien.
On arrive déjà au terme de cette introduction.
C'est passionnant.
Sophie de Montand, un grand merci à notre invité, Patrick Erard, Travailler heureux, philosophie du bonheur au travail, qu'on remonte son ouvrage. En tout cas, voilà
merci de votre invitation.
Je suis très frustrée que ça s'arrête.
Ah bien, nous allons continuer avec néanmoins une première table ronde. Dans un instant, restez avec nous. On va justement parler de cette santé au travail et en entreprise. À tout de suite.
Colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition.